Du 25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées.
Je lui ai mis la chanson « La balade des gens heureux ». Je reste en lien avec elle par le toucher et le regard, et je fredonne pour que le mouvement de mes lèvres l'encourage à chanter.
Le chant qui fait appel à l'enfance, aux comptines de la maman, à la voix de la maman, au chant des oiseaux, au chant de la terre.
Merci pour votre présence, Michel, exceptionnelle. Votre présence dans votre regard, dans votre écoute, dans votre émotion.
Michel est ému de recevoir cette qualification. Même quand une personne n'a plus accès à la parole, une communication et une rencontre profondément émouvante est possible pour les deux.
Bonjour, ici nous sommes à la salle polyvalente dans le cadre des rencontres de l'écologie. En face à moi, nous sommes en compagnie de Fleur Lise Monastès. Bonjour.
Oui, bonjour, ravie d'être là. J'adore la région d'Iwa, je ne suis pas d'ici par contre.
Ouais. Fleur Lise Monastès, vous êtes ici en tant qu'auteur de Alzheimer, la voix du cœur, et puis d'autres livres, notamment Les perles de sagesse de ma mère. Et vous êtes là pour nous parler d'un sujet qui concerne la maladie d'Alzheimer.
Alors, j'ai réalisé un documentaire dans un premier temps qui s'appelle « Alzheimer, la voix du cœur », un documentaire de 55 minutes que chacun peut aller voir sur YouTube pour montrer une autre façon de rentrer en lien avec ces personnes, avec un autre mode relationnel qui est plutôt basé sur la présence, la tendresse et avec aussi l'utilisation du pouvoir du chant et de la musique. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et par la suite, j'ai écrit un livre qui est disponible en librairie qui s'appelle « Murmurer au cœur Alzheimer » où je décris vraiment cette approche d'accompagnement que j'ai appelée la pleine présence relationnelle. Et donc je donne aussi des formations à des proches aidants et à des soignants pour intégrer cette approche dans leur pratique. Je ne viens pas du monde soignant. C'est en 2015 que la vie m'a amenée en présence des personnes Alzheimer et j'ai développé de façon intuitive une approche, donc je suis autodidacte, d'accompagnement. Et les soignants qui me voyaient intervenir me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais qui produit ces résultats-là » Donc en fait, je suis allée... du fait que j'avais aucune empreinte, j'étais pas soignante, j'étais pas psychologue, etc., j'ai osé des choses, j'ai écouté mon cœur, tout en étant très attentive à aller dans la justesse. Et effectivement, ce que je peux constater, c'est que ces personnes qu'on dit absentes, si nous, on est dans la présence, si on sait aller les chercher, les rejoindre profondément, on peut vraiment faire advenir une rencontre profonde qui est nourrissante pour l'accompagnant et pour la personne Alzheimer. Et si vous regardez le documentaire, vous allez voir ces images de beauté. Et moi, je dis que dans la maladie d'Alzheimer, il y a un cadeau. Bien sûr que je ne souhaite à personne d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais quand elle est là, et que c'est un fait, c'est un réel, les personnes qui viennent en contact avec elle, elles peuvent opérer une sorte de bascule intérieure pour les rencontrer autrement. Mon slogan, c'est une dimension de présence et de lien qui nourrit le plus beau de l'humain. Donc une infirmière qui vient, mais ça ne prend pas plus de temps, si elle prend le temps avant de faire la piqûre, de baisser un peu sa voix, de diminuer le volume, d'aller dans le murmure, de faire un beau sourire, de nommer la personne par son prénom, de prendre 2 secondes dans le regard, d'être à l'écoute, ça change tout en fait. La personne se sent vue et reconnue comme un être humain. Et ça permet aux autres aussi de découvrir peut-être les bienfaits du ralentissement. Ces personnes aussi, on dit qu'ils sont plus dans la mémoire, donc allons dans le présent. cherchant à vivre quelque chose dans le présent. Vous voyez, donc on n'est plus dans le monde rationnel, allons dans le mode de la communion. Et je pense que, en tout cas, moi, pour moi, ça a été un grand cadeau dans ma vie. Et toutes les personnes que je forme disent que ça, c'est un autre mode relationnel. C'est un autre mode relationnel.
Qu'est-ce qui vous a poussé justement à aborder cet aspect de la maladie et de l'accompagnement à ce moment-là, en 2015, hein, si vous me dites.
Qu'est-ce qui m'a amené là-bas, ouais. Alors, il y a toute une histoire autour de ça que je développe à la fin du livre, parce que moi, j'avais aucune connaissance de la maladie d'Alzheimer, j'avais aucun grand-parent vieillissant, j'étais moi dans le domaine du chant. J'amenais les gens à développer une relation paisible avec leur voix. Et un jour, j'ai donné un atelier qui s'appelait « Vivre son chant comme une caresse affective ». Et il y avait quelqu'un dans le public qui travaillait avec les personnes Alzheimer en Suisse. Et il m'a dit « C'est tellement beau ce que tu fais, il faudrait que tu viennes former le personnel soignant en Suisse au chant caresse ». En fait, ça a démarré comme ça. Et moi, quand il m'a dit ça, avec des étoiles dans les yeux, je me suis entendue dire oui, alors que je n'avais jamais imaginé ça. Et puis après, donc du coup, pour me préparer à cette rencontre en Suisse 2 mois plus tard, j'ai cherché un EHPAD qui pourrait me donner carte blanche pour expérimenter, je ne savais pas quoi en fait, mais quelque chose avec mon cœur, avec le chant au départ. Et j'ai trouvé une directrice d'EHPAD qui m'a ouvert les portes grand. Et j'ai pu expérimenter très rapidement. J'ai pu voir, et tout le monde autour a pu voir que j'avais un don et qu'après... que je savais faire des choses, mais même moi, j'en étais pas consciente. C'était parce qu'il y avait une telle soif relationnelle. Je vois, quand je suis rentrée la première fois dans l'EHPAD, j'ai eu un choc en fait. Le soir même, je suis rentrée, je me suis effondrée en sanglots. Je me suis dit, je peux pas retourner, c'est trop un mouroir, c'est trop difficile. Puis après, je me suis dit, si la vie m'a menée là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je suis restée. Et puis après, je me suis automodélisée pour voir ce que je faisais. Et la première clé que j'ai conscientisée, quand les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais pour que les gens, ils viennent vers toi, ils te sourient, ils sortent du silence, ils s'apaisent, etc. » Et je me suis entendue dire « Je cherche la porte d'entrée. Je cherche la porte d'entrée pour les rejoindre profondément. » Donc, j'ai une approche créative, j'observe, et mon intention, elle est vraiment de les rencontrer profondément. Et c'est ça qui m'a amenée à découvrir plein de voies d'accès pour les rejoindre.
Alors, vous disiez à un moment que vous avez expérimenté, même peut-être innové dans un hôpital en Suisse ou dans un milieu hospitalier du moins. Cette possibilité est plus aisée en Suisse qu'en France, par exemple, pour ce même type d'expérimentation?
Il y a eu les deux. En fait, ça dépend des personnes que l'on trouve sur son chemin, des personnes ouvertes au nouveau, des personnes j'ai trouvé. Donc après, ça, c'est le premier EHPAD où j'intervenais, c'était en Loire-Atlantique. Ensuite, j'ai déménagé en Saône-et-Loire et c'est à l'EHPAD, hôpital EHPAD de Cluny que j'ai réalisé mon documentaire. Donc j'ai trouvé une cadre avec un directeur qui était ouvert à me laisser expérimenter, à me laisser filmer aussi ce documentaire qui n'est pas rien. Vous allez voir, quand même 55 minutes, je n'avais jamais réalisé de documentaire. Encore une fois, je suis une autodidacte. Il y a un besoin, je mets les moyens en route pour que ça puisse avoir lieu. Cela dit, c'est vrai qu'en Suisse, il y a une plus grande ouverture. Il y a une plus grande ouverture. Par exemple, je suis allée dans ce qu'on appelle un EMS, un établissement médico-social, c'est l'équivalent d'un EHPAD, et ils avaient une personne à mi-temps qui était art-thérapeute, qui prenait tout son temps de travail pour aller chercher les uns les autres et le faire vivre du dessin, de la musique, et moi je l'ai formé un peu au chant relationnel et tout ça. Donc oui, il y a plus d'ouverture. J'ai carrément eu un directeur d'établissement qui m'a dit « Moi, je veux former mon personnel au savoir-être. » Alors, je n'ai jamais entendu un directeur ou une directrice.
Comment s'est élaborée cette méthode, hein, puisque c'est une méthode,
c'est une
en quelque sorte, une approche. Comment s'est opéré? Vous aviez constaté donc un don naturel pour murmurer peut-être aussi.
Murmurer.
Et donc, il a fallu établir un départ. Comment s'est-il constitué?
Donc au départ, c'était de l'expérimentation libre, mais j'étais toujours accompagnée d'un membre du personnel, une soignante, une responsable sociale, qui, elle, parce que moi, je ne connaissais pas les personnes, et qui me disait, waouh, là, toi, tu ne sais pas, mais ça, il n'a jamais fait ça, ou il n'a plus fait ça. Et on a commencé à noter, parce que comme c'était expérimental aussi, on notait après chaque rencontre ce qui s'était passé, on avait fait un tableau où on cochait des compétences relationnelles, des choses comme ça. Donc, on avait vraiment de quoi mesurer qu'il se passait vraiment des choses qui étaient générées par ces accompagnements. Et ensuite, moi, j'ai vu très rapidement, parce qu'après, ils m'ont offert un poste pour intervenir là à temps plein, et moi, j'ai réalisé que je voulais transmettre. Et donc, j'ai refusé cet emploi-là, et je me suis attelée à m'auto-modéliser, à chercher les mots et à structurer ça pour que je puisse le transmettre. Ça m'a pris quelques années, et après, je l'ai consigné dans Murmurer au cœur Alzheimer, mon livre.
Alors, cette approche donc de cet accompagnement, est-ce qu'il y a un appel d'institutions ou de personnes qui sont dans le milieu hospitalier qui demandent peut-être votre méthode, enfin du moins votre approche?
Alors oui, je suis intervenue dans 2-3 fois en formation professionnelle, dans hôpital EHPAD ou en Suisse. Mais ce que je vois plutôt se développer, c'est que les établissements sont peut-être un peu frileux à ça. Et donc, c'est des soignants ou des proches aidants qui viennent dans mes formations à titre personnel pour leur bien-être à eux dans l'accompagnement. C'est plutôt ça qui se développe en ce moment.
Est-ce qu'il y a une reconnaissance aussi au niveau de la sécurité sociale, notamment pour les prises en charge dans ce que vous proposez, ou alors il y a des embûches actuellement?
J'ai fait aucune démarche. Je suis quelqu'un qui va du tout dans le milieu administratif. Je suis une ouvreuse de chemin. J'ai ouvert des chemins avec d'autres livres et tout ça. Et voilà, c'est pas mon truc. Donc si un jour quelqu'un le fait pour moi, mais je m'y intéresse pas en fait. J'ai pas envie de me perdre mon énergie dans ces méandres. Et donc pour l'instant, ma façon de contribuer, moi, c'est mon livre. Il y a plein de gens qui me disent que ça a changé leur façon d'accompagner. Et mes formations, où les gens me disent qu'il y a un avant, un après. Et ça change leur regard sur la vulnérabilité et ça les recontacte à quelque chose de très très humain. C'est pour ça que je parle de s'enchanter d'humanité. Et c'est ça qui nous nourrit et c'est ça dont on a besoin.
Parler d'Odyssée, en quelque sorte, puisque Fleur Lise, vous êtes face à une personne atteinte, et il y a un mystère pour vous déjà d'aborder cette personne et de savoir comment communiquer avec elle.
Bien sûr qu'il y a un mystère, même une personne que j'accompagne dans la durée, parce qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées pendant un an et demi, et jusqu'en fin de vie aussi, je fais l'accompagnement en fin de vie. À chaque jour, c'est un mystère. Et c'est pour ça que quand je transmets dans mes formations, ce n'est pas une méthode A, B, C. C'est une façon d'être, une façon d'ouvrir les antennes. C'est d'être porté par une intention aimante. Et c'est très créatif. Donc je viens, j'établis le contact, je cherche à établir le contact, je vois ce qui est possible. Je suis très, très, très à l'écoute. Et des fois, ça va être plus dans le toucher, des fois, ça va être dans le regard, des fois, ça va être dans le chant, des fois, ça va être dans la musique intuitive. Des fois, ça va être juste de me mettre à son écoute. Des fois, j'accompagne des personnes dans le coma de sédation avec leur famille. Et il se passe aussi d'autres choses. C'est comment écouter finement, comment continuer à parler à l'âme de cette personne. Donc, c'est très, très vaste. Mais donc, j'arrive jamais avec un plan. Je suis dans ma qualité de présence et ma source de compétences, en fait, et ma qualité d'écoute aussi. Parce que c'est très important. Moi, je parle d'être en feedback. Être en feedback, c'est-à-dire d'ouvrir ses antennes pour percevoir tout ce que la personne me dit dans le verbal, dans le non-verbal, et de me réajuster en permanence pour que ça soit bon. Je ne fais pas mon truc avec mes ornières. Non. Et donc, cette approche que j'appelle la pleine présence relationnelle, j'y ai donné aussi un autre nom, c'est la voix du murmure. Parce qu'effectivement, j'invite beaucoup les gens à notamment murmurer, à baisser le volume de la voix, parce que ça nous fait passer du mental au cœur. Et la voix du murmure, c'est au sens aussi symbolique, c'est-à-dire pour murmurer à quelqu'un, il faut être proche. Et ça crée de l'intimité. Et moi, je suis pour un accompagnement dans l'intime. Voilà.
Dans l'Odyssée, il y a un épisode avec les sirènes, justement, qui veulent s'accaparer les hommes, peut-être pour s'en repaître également. Est-ce qu'il y a peut-être une idée autour de cette notion de la voix, du chant, celle qui détourne
Ou celle qui relie.
Et celle, voilà, et donc, est-ce qu'il y a un travail là-dessus?
C'est vrai, quand j'ai utilisé le mot odyssée, je n'ai pas du tout pensé à ça. Pour moi, l'odyssée était dans le sens d'une plongée profonde, que la lecture de ce livre, Murmuré au cœur Alzheimer. Mais effectivement, là, la voix, c'est comme tout, hein, un couteau peut être utilisé pour couper le pain ou pour faire mal. Donc la voix est pareille. Il y a des chants militaires hein, qui donnaient envie aux gens de partir à l'armée. Moi, j'appelle ça le chant relationnel. C'est le chant, la voix au service de la relation pour apaiser, parce que le chant va aller stimuler le cerveau émotionnel et pas le cerveau rationnel. Et donc, il y a quelque chose de très affectif, de très archaïque. Et comme un bébé, une personne vieillissante en fin de vie ou très vulnérable, il y a quelque chose de similaire entre le début et la fin de vie. Et de fredonner doucement, avec affectivité, en tenant la main, lentement, en respirant et tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement apaisant. Et ces gens-là ont besoin d'être vraiment dans le calme, l'apaisement et le lien.
Vous parlez de l'ouverture de la conscience, la vôtre, par rapport à la personne que vous avez en face de vous, et celle de cette personne proprement dite. Vous êtes justement à la recherche de sa conscience, en quelque sorte?
Non, oui et non. Moi, quand je dis que c'est une approche en conscience, c'est-à-dire déjà pour les accompagnants, c'est on le fait et on sait ce qu'on fait. Et voilà, d'avoir clarifié son intention aimante, des choses comme ça, de savoir ce qui est à l'œuvre, quelle dimension de présence est à l'œuvre. Non, je parle de cette conscience-là. Quand je vais à la rencontre de l'autre, je cherche une rencontre cœur à cœur. Mais effectivement, si on met une définition de la conscience globale, c'est-à-dire que l'être profond, oui, je cherche une rencontre de mon être profond à son être profond, au-delà de la maladie, au-delà de la vulnérabilité. Voilà. Et une de mes clés dans mon approche, c'est s'émerveiller de la rencontre avec l'autre. Même si l'autre en face est dans la résignation, dans la colère, dans la fermeture, dans la tristesse, dans des comportements obsessionnels, il y a un endroit de moi où je me connecte à eux, à un autre endroit, et je m'émerveille de la rencontre, et je suis touchée. Par exemple, une personne en colère, je me dis qu'elle a une bonne raison d'être en colère, donc je me relie à son besoin d'être en colère, qui lui est justifié, après sa stratégie est différente, mais... Et ça me nourrit, c'est ça qui me nourrit dans mon accompagnement. Et puis c'est vrai que moi, on m'a amené vers des cas de personnes extrêmement colériques et tout, que j'ai réussi à apaiser assez facilement, assez rapidement, de par toutes ces dimensions que je développe dans mon approche.
Qu'est-ce qui détermine, oui, selon vous, cette vulnérabilité?
Alors, quand on parle de personnes vulnérables dans les milieux hospitaliers ou dans les EHPAD, on parle de quelqu'un qui a besoin, qui n'est plus autonome sur certains plans, soit sur le plan physique, le plan du prendre soin, le plan médicamenteux et tout ça. Donc il y a cette grande vulnérabilité, effectivement, où la personne n'a plus cette autonomie. Et puis il y a le côté vulnérable où toutes ces mécanismes de protection tombent et donc va être plus à fleur de peau. Par exemple, moi je dis ça dans mon livre, c'est que le fait d'avoir cette grande vulnérabilité en face et cette grande, moi je sentais une grande soif de lien, d'humanité, ça m'a permis moi d'aller ouvrir un réservoir de tendresse qui était là en moi, et que si j'ai une personne, en parenthèse lambda, en face de moi, qui n'est pas ouverte à recevoir ma tendresse, je ne peux pas la donner, donc je n'ai pas le cadeau de la donner. Mais là, j'ai pu la donner, et en la donnant, elle me nourrit moi, et il y a un retour. Donc effectivement, je dis que la vulnérabilité nous permet des rencontres profondes. Des fois, c'est la vulnérabilité, juste une personne juste avant de mourir, il y a quelque chose qui lâche, et là, on peut se rejoindre, comme on ne s'est jamais rejoint. Voilà.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7
FM.
Vous avez aussi ce terme du plus beau de l'humain. Oui. Alors, qu'est-ce que vous y déterminez? Et est-ce que c'est tout le monde a cette qualité selon vous?
Je pense qu'on a tous en nous cet endroit du plus beau de nous, à nous aller le contacter. Et donc, pour moi, ce plus beau de nous, c'est ce qui nous rend aimants, ce qui nous rend à l'écoute, ce qui nous rend dans l'empathie, ce qui nous rend créatifs, ce qui nous rend respectueux. Donc ça, c'est ce plus beau de moi, parce qu'effectivement, une personne qui a un proche Alzheimer et qui vit énormément de souffrance parce qu'elle est dans le refus de la situation, qui n'a pas les moyens de rentrer en lien, il n'est pas nécessairement connecté au plus beau de soi. Donc des fois, il y a des bascules à faire pour voir l'autre autrement, faire le deuil de la relation telle qu'elle était et de trouver les cadeaux qu'il y a dans l'instant présent. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné qu'ils ont pu enfin rencontrer leur père, leur mère, leur conjoint, vraiment, de par la maladie. Parce qu'il y a quelque chose qui avait lâché, ils ont pu échanger et vivre de la tendresse alors qu'ils n'avaient pas pu le vivre à cet endroit-là. Donc voilà, donc c'est la vulnérabilité dans le sens beau et noble du terme, c'est-à-dire que c'est là qu'on se rejoint vraiment dans nos vulnérabilités respectives.
En corrélation sur le sujet de la maladie d'Alzheimer, est-ce que vous connaissez cette pratique du café mortel ? Est-ce que vous en avez des liens ? Est-ce que vous interchangez aussi dans vos recherches ou expérimentations ?
Alors oui, alors je vais pour la première fois assister à un café mortel pendant les rencontres. J'en ai entendu beaucoup parler, je trouve ça magnifique. C'est un sujet qui me tient à cœur, d'une part parce que je donne des formations dans l'accompagnement fin de vie aussi. Et c'est le thème de mon prochain livre, c'est « Apprivoiser la mort ». Voilà.
On va parler aussi de votre ouvrage, donc « Les perles de sagesse de ma mère ». Qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est un journal, en quelque sorte, de votre expérience ?
Alors, oui, j'étais étonnée qu'ils mettent ça sur le programme. Effectivement, j'ai trois autres livres que j'ai écrits. J'ai Les perles de sagesse de ma mère, deux tomes, et Au cœur du champ. Mais Les perles de sagesse, à un moment donné, j'ai réalisé le trésor que j'avais. J'ai une mère, donc je suis canadienne, hein, ma mère est québécoise. Je me suis rendu compte au fil du temps que je la citais de plus en plus souvent. Ah, comme dirait ma mère, dans telle situation, tatitata. Et les gens me disaient, waouh, quelle sagesse ta mère. Un jour, j'ai réalisé que j'avais vraiment un trésor. Et à chaque fois que je le partageais, les gens me disaient, ça, c'est une clé dont je vais me rappeler, que je vais utiliser dans ma vie. Et puis un jour, je me suis mis à écrire le livre en cachette. En fait, elle n'était pas au courant, pour lui rendre hommage et pour partager ça au monde aussi. Des clés simples, percutantes, concrètes, courtes. Et donc, j'ai écrit deux tomes. Donc, Les perles de sagesse, tome 1 et 2.
Le film documentaire que vous avez tourné, vous l'avez accompli en tant qu'autodidacte. Je suppose que vous avez eu un soutien technique ou de conseil également. Combien de temps ça vous a pris pour le produire ?
Ça a pris quelques mois. J'ai pris en main vraiment la réalisation. Par contre, j'ai trouvé de l'aide. Il y a quelqu'un qui est venu filmer, voilà, qui était le fils d'une des personnes que j'accompagnais, qui m'a fait ça bénévolement. Et puis j'ai pris à la fin une monteuse professionnelle qui avait envie aussi de donner de son temps pour ce projet-là. Mais j'ai tout réalisé moi-même.
Comment avez-vous tenté cette approche par ce documentaire d'aborder ce monde à part, en quelque sorte ?
Ben voilà, j'ai voulu montrer des images de beauté. Des images de liens, et donc on voit les images, et donc moi je commente aussi en voix narrative pour pointer ce qui se passe, et puis on voit aussi des soignants, des membres du personnel cadre aussi qui sont interviewés sur comment cette approche peut être un plus pour tout le monde. Ben, voilà.
Justement, les cadres ou les lieux de tournage, c'était de quel ordre ?
Ah, ben, j'ai tout filmé à l'hôpital EHPAD de Cluny en Saône-et-Loire en 2018.
Et donc, il y avait aussi un partenariat avec la direction, j'imagine, pour mettre en place. Voilà. Et pour eux, ça a été enrichissant aussi de leur côté de voir ce qui se produisait. Est-ce qu'ils ont trouvé peut-être un sujet d'intérêt ?
Alors, il m'a donné son feu vert, le directeur, mais il était sur le point de partir en retraite. Donc, après, le directeur qui a...
La transition
n'était pas du tout ouvert à ça. Donc, ça a un peu coupé... pour la suite. Mais bon, mon documentaire n'empêche qu'il est rendu à 32 000 vues sur YouTube, juste voilà, avec les moyens du bord. Donc je suis assez fière de cela. Ouais.
J'indiquerai sur la page de l'émission ce lien YouTube. Hein.
Oui,
il y a un documentaire ou d'autres ?
Alors j'en ai fait un premier avant pour me faire la main de 15 minutes. qui en trouve aussi sur YouTube, qui s'appelle, à l'époque j'appelais ça le soin relationnel par le chant, le chant, la tendresse et la musique. Un documentaire de 15 minutes.
Vous-même êtes musicienne ?
Je ne me décris pas comme musicienne. J'ai été chanteuse, j'ai fait des albums, mais je ne connais pas le solfège. Et c'est pour ça que j'utilise les instruments de musique intuitive que j'utilisais, qu'on n'a pas besoin de savoir jouer, c'est qu'ils sont accordés d'une certaine façon, que c'est beau. Et c'est pour ça que j'ai mis mes instruments dans les mains de toutes les personnes que j'ai accompagnées.
Comment se fait-il que vous soyez présente ici, dans le cadre de l'écologie au quotidien ?
Je pense que c'est au niveau de la dimension de l'écologie relationnelle déjà. Mais donc, il y a plusieurs personnes, j'ai plusieurs amis dans le Diwa. Donc je leur avais parlé de mon documentaire parce qu'ils me disaient qu'il y avait des projections de documentaire. Et il se trouve qu'au mois d'octobre, j'ai donné une conférence au cinéma de Cray. Je venais pour donner un week-end de formation à des bénévoles d'accompagnement fin de vie. Et il y a une personne qui faisait partie du comité qui m'a vu intervenir dans ma conférence. J'ai parlé de mon documentaire. Pan m'a dit ce serait chouette que vous interveniez. J'ai rencontré Anne Tesson et voilà, ça s'est fait comme ça.
Florence Alico, c'est une personne qui sera auprès de vous pendant cette projection notamment. Quelle est sa part d'approche avec vous ?
Elle a été jointe pour qu'il y ait une personne au niveau local, comme moi je suis de la région de Cluny, Saône-et-Loire, qui est, voilà, et puis quelqu'un qui travaille déjà avec les personnes Alzheimer, donc je vais la découvrir tout à l'heure.
Le terme de la pleine présence relationnelle, ça c'est un terme que vous avez créé ?
J'ai créé, qui n'existait pas, ouais, la pleine présence relationnelle. Et dans mon livre, je décris 10 dimensions, sous-dimensions de présence. Voilà, donc, mais oui, c'est moi qui est arrivée avec ce terme.
Voilà, et donc tous ces aspects sont à découvrir dans vos ouvrages.
Dans mon livre « Murmurer au cœur Alzheimer ».
Qui est actuellement en disponibilité, hein, la librairie de cette rencontre. Fleur-Lys Monastès, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné de votre temps pour nous parler de cette approche sur la maladie d'Alzheimer.
Oui, merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'écoute. Et peut-être juste mentionner mon site internet lavoixdumurmure.com avec VOIE, lavoixdumurmure.com sur le thème de l'accompagnement des personnes vulnérables.
Bonne soirée.
Merci, à vous aussi.